Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manilakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition. Nous sommes jeudi 6 octobre 2016, au sommaire ce soir.
Soudan du Sud, l'Union européenne et les États-Unis fustigent l'appel de l'ex-chef rebelle Riek Machar à déclencher une nouvelle guerre contre Djouba.
Les Chebabs ont tué 6 chrétiens dans une attaque au nord-est du Kenya.
Soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité à l'ancien Premier ministre du Portugal, Antonio Guterres, pour succéder à Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies.
2 millions de personnes en Floride et en Géorgie ont reçu l'ordre d'évacuer pour échapper à Matthew, un puissant ouragan qui a déjà semé la désolation dans les Caraïbes.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
Effondrement d'un immeuble au Bénin. Au moins 3 personnes ont été tuées aujourd'hui à Cotonou. Le bâtiment était en construction à Dégakon.
La communauté internationale, dont l'Union européenne et les États-Unis, ont vivement condamné l'appel de l'ex-chef de rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, à déclencher une nouvelle guerre contre le gouvernement sud-soudanais. Les précisions de Tatiana Mousseau.
Fin septembre, Riek Machar, ancien vice-président sud-soudanais, avait annoncé son intention de lancer une résistance populaire armée contre le régime autoritaire et fasciste du président Salva Kiir. Dans un communiqué commun, l'Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays voisins du Soudan du Sud ont condamné les appels de leaders de l'opposition à une reprise du conflit armé. Un accord de paix signé en août 2015 avait fait naître de timides espoirs de pacification du pays. Et fin avril 2016, M. Machar était revenu à Djouba en tant que vice-président pour former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Mais la capitale a été le théâtre de violents affrontements début juillet et les violences se poursuivent dans plusieurs régions. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété le 30 septembre de la situation d'environ 100 000 personnes piégées dans la localité de Yéhi, qui est encerclée par les forces gouvernementales sud-soudanaises.
Une grève dans les hôpitaux publics du Soudan aujourd'hui. Les médecins réclament de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et davantage de sécurité.
La Cour internationale de justice examinera à partir du 17 octobre la demande de la Guinée équatoriale de Sommet Paris de suspendre les poursuites judiciaires à l'encontre du fils du président Teodoro Obiang-Nguema, Mbasongo. Le point avec Nanit Talani.
La plus haute instance judiciaire des Nations Unies tiendra des audiences publiques du 17 au 19 octobre 2016, a annoncé la Cour dans un communiqué. Elles auront lieu à La Haye, à quelques jours du procès devant le tribunal correctionnel de Paris, où Théodorine Obiang-Nguema a été assignée à comparaître le 24 octobre. Vice-président de son pays, fils du président équato-guinéen, Théodorine Obiang-Nguema est accusée par la justice française d'avoir pillé les caisses de l'État et de s'être frauduleusement bâtie en France un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Début septembre, il a été renvoyé devant la justice pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis, une affaire qui éclabousse beaucoup de chefs d'État africains et leurs familles. Malabo avait demandé la semaine dernière à la Cour internationale de justice, dans l'attente de son arrêt de fond, de rendre une décision provisoire ordonnant à Paris de suspendre les poursuites pénales contre Théodorine Obiang-Nguema qui, selon Malabo, constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions dans l'intérêt de son pays.
Nanit Talani, nouvelle attaque dans le nord-est du Kenya. 6 personnes ont été tuées dans un complexe résidentiel de la ville de Mandera, près de la frontière somalienne. Une attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, Antonio Guterres a obtenu aujourd'hui le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité pour devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies, selon des diplomates à l'issue d'une réunion à huis clos. Excusez-moi. L'ancien Premier ministre du Portugal a promis, lors d'une déclaration à la presse à Lisbonne, de servir les plus vulnérables. Il doit encore être approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui devrait être une formalité avant de prendre ses fonctions le 1er janvier. Il succédera au Sud-Coréen Ban Ki-moon, qui a salué un superbe choix.
Ici aux États-Unis, plus de 2 millions d'Américains ont été semés d'évacuer le littoral atlantique à l'approche de l'ouragan Matthew, qui a déjà fait près d'une centaine de morts dans la Caraïbe et dévasté là-haut Haïti. Des précisions avec Anastasie Toudièche.
Distribution de sacs de sable, péage levé et ouverture de centres d'accueil pour les centaines de milliers de personnes évacuées, habituées aux tempêtes tropicales, la Floride se prépare. Selon le Centre américain de surveillance des ouragans, Matthew est le plus puissant depuis des décennies. Il devrait s'abattre sur la Floride cette nuit et pourrait se renforcer en catégorie 4 sur une échelle de 5 à l'approche des côtes américaines. Les eaux pourraient monter jusqu'à 3 mètres et selon les météorologues, il y a risque d'inondation meurtrière ces prochaines 36 heures le long des côtes est de Floride et de la Géorgie. Nous espérons le mieux, mais nous nous préparons au pire, a déclaré Rick Scott, le gouverneur de Floride. Il a averti que les vents pourraient atteindre jusqu'à 240 km/h. 2500 militaires sont mobilisés pour aider à l'évacuation et à l'aménagement des abris. 4000 membres supplémentaires de la garde nationale sont en état d'alerte pour être déployés le plus vite possible en cas de besoin.
L'ouragan Matthew a fait au moins 108 morts en Haïti selon le ministre de l'Intérieur et c'est la détresse des Cubains après son passage. L'ouragan Matthew, le plus puissant, a soufflé sur la Caraïbe depuis près de 10 ans.
En Syrie, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat contre des rebelles appuyés par la Turquie. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a averti pour sa part que l'est de la ville d'Alep risque d'être complètement détruite d'ici la fin de l'année du fait des combats. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'explosion revendiquée par le groupe État islamique visait un convoi rebelle et a fait au moins 20 morts dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie. Parmi les victimes figurent un juge et un autre haut responsable judiciaire du secteur est d'Alep, tenu par les rebelles. Ce secteur pourrait devenir un champ de ruines d'ici la fin de l'année et des milliers de personnes vont être tuées si l'armée syrienne poursuit son offensive, a averti l'émissaire spécial onusien pour la Syrie. Staffan de Mistura a imputé en partie la responsabilité de la situation aux combattants djihadistes du front Fateh al-Sham, qu'il a appelé à se retirer de la zone. L'émissaire onusien a aussi critiqué la Russie pour ses bombardements excessifs, mettant en danger de nombreux civils et la ville elle-même, alors qu'il ne vise qu'un nombre relativement réduit de rebelles. Selon l'ONU, quelques 275 000 personnes sont assiégées dans l'est d'Alep.
La Turquie a affirmé aujourd'hui qu'elle maintiendrait ses troupes en Irak en dépit des protestations de Bagdad. La tension entre les deux pays monte à l'approche d'une offensive destinée à libérer Mossoul, le bastion irakien du groupe État islamique. Les députés irakiens ont appelé mardi le gouvernement à prendre des mesures de rétorsion contre Ankara. C'était après un vote du Parlement turc prolongeant le mandat qui autorise les troupes turques à intervenir en Irak et en Syrie. Ces députés ont qualifié de force d'occupation la présence militaire turque à Bachika.
Au Yémen, de nouveaux affrontements entre rebelles et forces pro-gouvernementales ont fait 7 combattants aujourd'hui dans le sud-ouest du pays.
En Afghanistan, près de 10 civils ont fui la ville de Kunduz depuis lundi, selon l'ONU, afin d'échapper aux combats toujours en cours entre forces gouvernementales et talibans.
Oui, qui ont causé la fuite de 10 000 civils. Et la direction palestinienne a salué aujourd'hui la visite en cours d'une délégation de la Cour pénale internationale. Mais elle a prévenu que la CPI serait jugée à terme sur sa décision d'ouvrir ou non une enquête pour crime de guerre contre Israël. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Les bonnes récoltes attendues pour le blé et le riz devraient contribuer à de nouveaux records à la baisse pour les prix de ces céréales de base. C'est ce qu'estime aujourd'hui la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. La production mondiale des céréales devrait atteindre cette année quelque 2 569 milliards de tonnes, soit une hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Un peu plus de 44 milliards de francs CFA, c'est le montant à titre de pénalité que le consortium composé des grandes entreprises pétrolières telles que Petronas ou encore Chevron devra payer à l'État tchadien. Ces compagnies et bien d'autres sont condamnées pour taxes non payées. Le Tchad, 12 millions d'habitants, a commencé l'exploitation du pétrole en 2003. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré hier une ligne ferroviaire de 750 km entre Addis Abeba et Djibouti. Financée et construite par la Chine, elle a pour ambition de désenclaver l'économie éthiopienne et de doper les échanges avec Djibouti. Et puis au Burkina Faso, 5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la somme que l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes vient d'infliger à l'Office national des télécommunications. Onatel se voit infliger cette amende pour dysfonctionnement de son réseau.
Oui, c'est le rythme des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Première destination, la RDC, Mbokani est de retour au sein des Léopards.
Oui, l'attaquant congolais de Hull City en Premier League a accepté de jouer à nouveau pour l'équipe nationale congolaise après avoir annoncé début avril qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Dieu merci, Mbokani montera donc sur la pelouse samedi lors du match RDC-Libye, comptant pour la première journée du dernier tour des éliminatoires Zone Afrique du Mondial Russie 2018. On écoute Dieu merci Mbokani.
Bon, c'est par rapport aussi au peuple congolais. Je réfléchis avec ma famille, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas laisser le peuple congolais comme ça. Il faut que je revienne pour mon pays.
Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple congolais, justement?
Bon, je peux dire seulement pour les matchs de dimanche. On va gagner sur la victoire seulement. C'est ça.
Dieu revient et s'investit à 100% pour l'équipe.
Oui, je suis à 100% pour les matchs de dimanche, tu vois, et pour les matchs de samedi. Tu vois, même à l'entraînement, je travaille bien. Je suis sûr qu'on va gagner pour samedi.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était donc l'attaquant congolais. Dieu merci Mbokani au micro de nos partenaires de Top Congo FM à Kinshasa.
Ouais, Cuba, États-Unis, des retrouvailles amicales et historiques en football, Bagassi.
Oui, c'est le dernier geste de rapprochement date entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Demain à 16h, 20h, temps universel, la sélection américaine de Jürgen Klinsmann ira défier les Cubains lors du tout premier match amical disputé entre les deux pays depuis 1947. Date de la dernière victoire des Cubains face aux Américains 5-2. Team USA qui prépare le dernier tour des qualifications de la CONCACAF en vue de la Coupe du Monde 2018 prendra la rencontre très au sérieux. Mais l'affaire s'affiche déséquilibrée entre le 22e au classement FIFA et le 139e.
Espérons que le Team USA prendra la revanche. Dopage, 5 athlètes marocains ont été suspendus.
Oui, ils sont 5, hein, dont un cadet spécialiste du 100 mètres haies qui ont été suspendus donc de 2 à 8 ans après la violation des règles antidopage constatées par la Fédération internationale. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Hanan Houhadou, âgé de 34 ans, spécialiste du 3000 mètres stiple, avec un record de 9 minutes 22 secondes 12 centièmes en fin de carrière, et Abdelhadi Labali, 23 ans, espoir des 1500 mètres, ont tous deux écopé de 8 ans pour récidive.
On parle des JO 2016, la boxe, l'intégralité des juges et arbitres de Rio écartés.
Oui, l'intégralité des 36 juges et arbitres qui ont officié aux Jeux olympiques de Rio ont été écartés dans l'attente des résultats d'une enquête. L'annonce a été faite ce jeudi par AIBA, la Fédération internationale de boxe amateur, qui organisait les tournois à Rio. Plusieurs juges et arbitres avaient déjà été écartés des épreuves durant les Jeux après plusieurs décisions controversées. L'Irlandais Michael Conlan, défait en quart de finale des 56 kg par le Russe Vladimir Nikitin, avait ainsi contesté avec virulence la décision des juges.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Rigobert Song?
Aujourd'hui, pas de nouvelles. On imagine qu'il est à l'hôpital en France.
Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, Libreville.
Au Gabon, donc, l'appel à une ville morte n'a pas été suivi à travers le pays aujourd'hui. Et l'initiative avait été lancée par l'opposant Jean Ping en hommage aux personnes mortes pendant la crise post-électorale qui a secoué le Gabon après la réélection du président Ali Bongo Ondimba. De Libreville, la correspondance de Jean-Rovis Dabani.
Dans son entrepôt aux aires des labyrinthes, Mokhtar navigue sans mal au milieu d'un vaste océan de costumes. C'est ici où s'habillent les jeunes cadres. Dans son entrepôt situé en centre-ville, sont prêts à porter à bruit des centaines de costumes. Ce matin-là, il est plus préoccupé par ses affaires que par les appels à une ville morte lancés par le chef de l'opposition, Jean Ping, en mémoire, dit-il, aux victimes de la crise post-électorale qui a secoué le pays après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo. Comme Mokhtar, d'autres marchands ont préféré ignorer les appels à une ville morte. Mokhtar.
Et une journée fermée, sincèrement, c'est beaucoup de pertes au fait. En plus, pendant cette rentrée scolaire, en fait, si on ferme en ce moment, c'est beaucoup de pertes. Nous, on pense que c'est déjà passé, parce que le président est déjà élu, c'est déjà confirmé, donc c'est déjà passé.
Mercredi soir, le SILTEG, le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, connu pour ses actions anti-raquettes, a appelé les taximans à paralyser les transports en commun, mais cet appel n'a pas été entendu par les chauffeurs de taxi comme Selim.
Bon, déjà, c'est une affaire un peu politique. Nous sommes des taximans, donc je ne vois pas à quoi ça sert de faire une ville morte, puisque nous avons besoin de travailler pour faire progresser l'économie du pays.
Il souffre, un autre taximan n'a pas été informé, mais constate une circulation étonnamment fluide comme d'ordinaire.
On attend quand le gouvernement va dire que le syndicat fait partie du gouvernement, de la proposition du gouvernement, quand il dit aux gens que non, la ville morte. On fait la ville morte. S'il n'y a pas de travail, on reste à la maison. Maintenant, parce qu'on n'a pas suivi à la télé que non, on a dit que non, et il n'y a pas de travail, on travaille, chacun travaille. Et en tout cas, il y a le travail quand même.
À Libreville, le mot d'ordre n'a pas été respecté et ignoré dans d'autres grandes villes du pays. Conséquence, ce jeudi, les différentes villes ont tourné normalement comme si de rien n'était. Les banques et administrations ont tourné bien. Devant l'une des banques, des fonctionnaires forment même les files pour toucher leur salaire tranquillement. C'est le cas de Gary, partisan des Jean Ping.
Il ne s'agit pas forcément de rester à la maison ou de ne pas avoir une activité, mais d'avoir une pensée un peu plus pieuse envers ces personnes décédées.
C'est la deuxième fois que l'opposant lance un appel à une journée ville morte sans que la recommandation soit suivie. Le gouvernement a publié un communiqué mercredi soir pour appeler les travailleurs à vaquer à leurs occupations. 5 semaines après le début de violence, 2 versions continuent de s'opposer. Le pouvoir parle de 4 personnes mortes, dont un policier et plus d'une centaine de blessés. Mais l'opposition, elle, parle de 50 à 100 morts. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Afrique a-t-elle connu des progrès depuis 10 ans en matière de gouvernance globale? La Fondation Mo Ibrahim répond oui. Amélioration notamment au niveau du développement humain, des droits de l'homme, du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Mais les Africains sont moins en sécurité qu'il y a une décennie, d'après un rapport de la Fondation. Y a-t-il eu effectivement des progrès dans votre pays? Votre quotidien s'est-il ainsi amélioré? Ou au contraire, les questions de sécurité ont-elles pris le dessus sur de tels progrès? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi, à 19h30.
Oui, à tout à l'heure Jacques. Au Mali, la rentrée scolaire est effective cette semaine sur l'ensemble du territoire, à l'exception de Kidal, Tombouctou et Gao. Depuis des années, l'insécurité perturbe la scolarisation des enfants dans ces régions. Sur les difficultés des écoles du Nord, Modibo Dembélé a joint Mahamadou Moufilia Maïga, directeur du centre d'animation pédagogique de Tombouctou.
Depuis la crise sécuritaire de 2012, nous avons eu quand même des difficultés à ouvrir toutes les écoles de la circonscription du Cap de Tombouctou, particulièrement dans les communes de Salam et de Ber. L'année dernière, jusqu'à la fermeture, nous avons 13 écoles encore qui n'ont pas été ouvertes. Certains sites où les populations n'étaient pas encore rentrées. Et pour le fait que également le renouvellement du personnel enseignant posait également un grand problème. Cette année, avec cette ouverture-là, sur les 13 déjà, nous avons 3 qui vont ouvrir bientôt. Parce que sur les 13, il y a une école qui est une adresse privée dont le promoteur est venu nous voir pour nous dire qu'il était prêt à ouvrir son école.
Quelle est la situation de la présence des enseignants au nord du Mali en général?
Le nord est une région à accès un peu difficile, donc si bien que le problème d'enseignants a toujours existé. Mais avec la crise, ça s'est empiré parce qu'il y a certains enseignants qui ont peur de servir là où il y a l'insécurité. Et il est difficile également de les déployer sur le terrain ou des zones où, par exemple, il y a une recrudescence de l'insécurité. Mais quand même, beaucoup d'efforts sont fournis. Et aujourd'hui, en tout cas, au Cap de Tombouctou, moins sont les enseignants qui ne sont pas encore rentrés à leur poste.
Comment cette situation influe-t-elle sur la qualité de l'enseignement dispensé?
Cette situation a des conséquences très négatives sur les enseignements, d'autant plus que nous avons deux sortes de problèmes. Les enfants dont les écoles ne sont pas ouvertes et dont les parents sont sur place sont obligés d'aller inscrire leurs enfants dans les écoles de la commune urbaine et ça donne des effectifs très très élevés dans les communes urbaines de Tombouctou où les classes sont très très pléthoriques. Et de l'autre côté, ça pose des réels problèmes parce que les enfants qui n'arrivent pas à trouver l'éducation dans leur site d'origine, il y a un certain manque de motivation. La solution que nous préconisons, c'est qu'on puisse vraiment recruter des enseignants qui sont de la région et qui connaissent les réalités du Nord et qui sont prêts à accepter, à enseigner vraiment dans les sites où nous les envoyons.
Mamadou Moufilia Maïga, directeur du Centre d'animation pédagogique de Tombouctou au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVOA Afrique 24h sur 24.
Pénurie de gaz butane au Niger. Les distributeurs ont cessé toute activité depuis des jours pour exiger du gouvernement le rétablissement d'une subvention de l'État. Cette pénurie affecte durement les populations habituées à cette source d'énergie depuis 2011. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est au siège d'une des sociétés de distribution de gaz que nous avions rencontré Mohamed Dada. Il est venu, dit-il, à la source parce qu'en ville, il n'arrive pas à recharger sa bouteille de gaz de 12 kg.
Depuis hier, je suis en train de chercher du gaz. J'ai fait plusieurs points de vente, je n'ai pas eu de gaz. Maintenant, je suis même à la source, quoi, au Niger Gaz. Ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Donc nous, on ne sait pas maintenant où est-ce qu'on va retourner, au charbon, au bois. Donc vraiment, ils nous ont gâtés avec le gaz maintenant et ça coupe.
Mohamed Dada repart donc bredouille et déçu. Il y a beaucoup comme lui qui sont dans cette situation.
Il n'y a pas de bois et encore il n'y a pas de gaz. Comment on va mourir où, hein?
Une situation qui risque de perdurer. Les professionnels du secteur gazier étant apparemment déterminés.
C'est un truc vraiment illimité. Tant que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision, nous au niveau du GPG, les sociétés de gaz, on est incapable vraiment de continuer à ravitailler des gaz.
Mahmoud Ali est le président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
Ce qui nous a amené à arrêter nos activités, c'est que nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie. Avant le démarrage de la raffinerie, le gaz était subventionné par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle fonds de l'énergie. Bon, malheureusement, depuis ce démarrage-là, le fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. C'est comme si ce sont les sociétés qui sont en train de subventionner le gaz à la place de l'État. On tourne à perte. Ce qu'on vend ne nous permet pas de payer notre principal fournisseur. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave.
Pourtant, selon les défenseurs des droits des consommateurs, la solution est très simple. Youssouf Hamadi, président de l'Association de défense des droits des consommateurs.
Nous avons effectivement écouté les gaziers, ils nous ont expliqué leurs problèmes. Et le problème est très simple. Ou on subventionne le gaz, ou on va au prix réel du gaz.
Ce prix réel tournerait autour de 6 000 francs CFA pour la bonbonne de 12 kg qui est actuellement vendue à moins de 4 000 francs CFA. Si donc la subvention n'est pas reprise, c'est ce prix réel que les distributeurs menacent de pratiquer. Sauf qu'au Niger, les prix sont fixés seulement par l'État depuis le début de la production pétrolière. Les consommateurs demandent alors aux deux parties de bien vouloir s'entendre. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présidentielle américaine. Après l'unique débat des candidats à la vice-présidence mardi, Farmville en Virginie, la tension se porte à nouveau sur les deux candidats à la Maison-Blanche. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton s'affronteront dimanche dans le Missouri lors de leur deuxième débat. Et la question sur toutes les lèvres est de savoir si Donald Trump saura imiter l'approche disciplinée est très remarqué de son colistier Mike Pence. La chronique est signée Timothée Donangmaï.
Comme à son habitude, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton se prépare activement pour le deuxième débat prévu le dimanche 9 octobre. Ainsi qu'il l'a fait la dernière fois, le républicain Donald Trump continue de battre campagne. Dans un discours mercredi à l'Académie chrétienne internationale, une école chrétienne de Las Vegas dans le Nevada, il a déclaré qu'une victoire de Mme Clinton en novembre mettrait en danger la liberté religieuse en Amérique. Il s'est félicité de la prestation de son colistier Mike Pence lors du débat de mardi, le créditant de la plus écrasante victoire qu'un candidat à la vice-présidence puisse remporter.
Le face-à-face de dimanche entre les candidats à la Maison-Blanche sera un forum citoyen où les candidats répondront aux questions des lecteurs indécis, n'est-ce pas Tim?
Donald Trump fera-t-il preuve dimanche de cette discipline et de cette affabilité qui a permis à son colistier Mike Pence de conquérir de nombreux Américains? Les républicains comme les démocrates attendent de savoir ce qu'il en sera. Une telle discipline lui donnerait un air beaucoup plus présidentiel, notent les observateurs. Au premier débat, Mme Clinton a maintenu son adversaire sur la défensive, s'en prenant à son refus de publier sa feuille d'impôt, à ses attaques contre les femmes ou encore à toutes ces années où il a nié la citoyenneté américaine du président Barack Obama. Pour ne pas arranger les choses, le New York Times a publié 3 pages de la feuille d'impôt 1995 de Donald Trump montrant qu'il avait déclaré des pertes de 916 millions de dollars cette année-là et que cela lui aurait évité de payer des impôts pendant près de 2 décennies. Donald Trump doit être mieux préparé et agir d'une manière présidentielle, lui conseille le politologue Jeffrey Skelly de l'Université de Virginie. Reste à savoir s'il saura se contrôler, a souligné Skelly. Il en a besoin. Divers sondages donnent à la démocrate Hillary Clinton une avance dans plusieurs États et 80% de probabilité de devenir la première présidente des États-Unis.
C'était la chronique sur la présidentielle américaine avec Timothée Donangmaï. Merci Tim.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Cette édition, Michel. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nachwan Kalé à la console.
Eric Manirakiza et Morgane Guiriec en votre compagnie. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 900 000 déjà, on maintient la conversation. Enfin, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA.